on se penche sur le vin en Bretagne. Alors, on aura deux invités, mais pour l'instant, nous n'en avons qu'une qui est là. Elle représente le Domanitis, un domaine viticole qui est implanté dans le Morbihan. Elle s'appelle Nolwenn, elle vient de dire son nom de famille elle-même.
Moi, je suis Nolwenn Runigo, en fait.
Et donc, dans le Morbihan, à quel endroit exactement?
À Locmiquélic.
C'est vraiment le Morbihan.
Exactement, hein. L'autre côté de la Rade de l'Orient, en fait.
Et donc, ouais, moi, je connaissais du vin produit en Bretagne, mais plutôt de manière personnelle ou associative.
Amateur, ouais, voilà. Ou associative, ouais.
Et là, vous êtes professionnel, donc racontez-nous...
L'ouverture.
Ce qui vous a pris.
Ouais. Ça, je ne sais pas encore. Ou en tout cas, je me pose des questions, mais non, ça va. En fait, il y avait une interdiction de produire du vin en Bretagne pour la commercialisation jusqu'à 2016. Donc, les droits de plantation ont été ouverts. Ça ne concernait pas que la Bretagne, hein, ça concernait la Bretagne, l'Île-de-France, la Normandie et la région Nord.
Et ça venait d'où, ça ?
Ça datait de 1930, en fait. Il y avait eu une interdiction sur ces trois régions parce qu'il y avait une production... Alors, l'origine historique, je ne peux pas vous la dire avec précision, mais ce que j'en sais aujourd'hui, c'est qu'il y avait une surproduction en France, qu'il fallait limiter la production de vin, et du coup on a interdit à ces régions de produire du vin pour la commercialisation. 2016, ouverture des droits, d'où tous ces projets naissants en Bretagne, mais pas que, Normandie, région Nord, voilà.
Et comment ça se fait qu'on a rouvert les droits ?
Moi je pense parce qu'en fait dans le sud de la France on a des degrés de la sécheresse, etc., qui font que ça devient difficile de vinifier, plus complexe, et qu'on a des degrés dans le vin qui sont plus importants. Donc voilà, c'était une façon de réouvrir la culture viticole.
Le climat change. Et vous étiez en embuscade, vous aviez ce projet, ou vous étiez dans une autre région à préparer votre...
On aimait beaucoup le vin nature depuis très longtemps. Enfin, je dis on parce que je suis installée avec mon conjoint. Moi, c'était... Alors, mon conjoint, c'était vraiment une passion du vin nature et de la vinification. Moi, j'avais toujours eu envie d'aller vers l'agricole et on s'est rencontrés là-dessus.
Vous n'étiez pas agriculteur au départ ?
Non, je suis issue d'un milieu agricole, mais j'étais pas agricultrice et surtout, j'étais pas viticultrice parce qu'on n'a absolument pas cette culture ici. Donc, c'est une découverte quand même pour beaucoup. On n'est pas, je veux dire, on est tous des néo-vignerons quasiment. On n'est pas issus du milieu viticole, on n'est pas entouré par des viticulteurs. On est un peu seul en fait à construire ça aujourd'hui, oui.
Et donc vous êtes formé, enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme...
On est formé, franchement, la formation, j'ai envie de dire, de base, c'était le BPREA en viticulture.
Ouais, pour être chef d'exploitation.
Exactement.
Mais avec une option quand même, enfin une spécialisation.
Viticulture pour mon conjoint, pas pour moi. Moi, je suis allée tout simplement pour des histoires familiales. Hein. Lui, il était parti un an, moi j'ai fait un choix autre. Je me suis formée au végétal. Et après, je suis allée rencontrer des vignerons. Enfin voilà, je décroche facilement le téléphone, j'ai un peu bougé dans les domaines pour apprendre, et puis j'apprends par empirisme. J'ai pas appris, j'apprends tous les jours.
Donc vous avez commencé en 2016 même ou non ?
Non, nous on a fait nos premières plantations en 2019 sur un droit de plantation qui n'était pas professionnel, puisqu'on a planté juste 1000 m² pour voir un peu comment ça s'organisait. Et dans un même temps, puisqu'on avait vraiment très envie de planter plus et de s'installer en professionnel, on a fait le choix de faire ce qu'on appelle du négoce, c'est-à-dire d'aller vendanger du raisin en dehors de Bretagne et de vinifier chez nous à Locmiquélic. Voilà. Et très rapidement, on a fait le choix d'aller vendanger les cépages qu'on avait choisi de planter.
Et donc, vous avez choisi quoi comme cépage ? On y reviendra.
Alors nous, on a fait des choix quand même plutôt atlantiques, voilà, nord. On a planté du melon de Bourgogne, du gros lot gris et gros lot noir, du pinot d'Onis, et on a fait le choix d'un cépage galicien qui s'appelle l'Albarinho.
Et vous avez un peu de recul maintenant, alors ?
Très peu.
Oui, pas encore.
Léger, ouais. Mmh. La question, c'est est-ce que ça se passe bien ?
Ben oui.
Ouais. Ça pousse bien. En fait, moi, je pense aussi qu'on ne peut pas dire les choses... Enfin, on ne peut pas englober toute la Bretagne sur mon histoire. Enfin, les sols ne sont pas les mêmes. On a pas... Déjà, en Bretagne, on a quand même une mosaïque de sols et de sous-sols qui est... Voilà. Et ensuite, on n'a pas les mêmes lieux d'implantation, donc forcément pas les mêmes influences maritimes, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je dirais que très honnêtement, sur une de mes parcelles, ça pousse trop. Et sur l'autre, voilà, je trouve que c'est plus équilibré.
Mais c'est des cépages, c'est un peu les mêmes qu'on retrouve dans les vins de Loire, enfin de Loire-Atlantique.
Alors pour nous, mais c'est pas du tout le cas de l'ensemble des vignerons sur la Bretagne.
Ah, oui.
Moi, je dirais qu'il y a trois schémas qui se dessinent. Je suis pas, j'ai pas des données précises sur les plantations en Bretagne, mais enfin j'en ai quand même une idée. Il y a des gens qui font le choix de planter des hybrides, les gens qui font le choix de planter, je dirais, les cépages dits nobles, voilà. Et puis des gens qui font le choix de faire ce que nous on a choisi de faire, c'est-à-dire de choisir des cépages plus Loire-Atlantique, en effet. Voilà. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas un schéma qui se dessine, en fait. Parce que je pense que très honnêtement, on ne sait pas.
Oui, vous êtes en pleine expérimentation.
Exactement.
On peut le dire.
Exactement.
Et donc, il y a plusieurs vignerons et vigneronnes professionnelles maintenant.
En fait, il y a une. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais ce que j'avais lu, ce que j'avais discuté avec d'autres membres de l'AVB, qui est l'Association des vignerons professionnels de Bretagne.
Qu'on salue et qu'on recevra prochainement.
Voilà. Il y a une trentaine de projets plantés et une cinquantaine avec des droits de plantation demandés.
Okay. Voilà. Et nous avons un autre invité, Freddy Le Breton, qui n'est pas encore vigneron, mais je crois que c'est en projet. Vous êtes donc, c'est Bervin, hein, votre...
Bervy.
Du coup, ouais. Qu'est-ce que vous faites pour l'instant ?
Moi, je viens tout juste de commencer. L'entreprise a commencé, du coup, Bervy a commencé en 2023.
Vous êtes dans le Morbihan aussi ?
Je suis dans le Morbihan. Je suis du côté de Colpeau, du coup. Donc à 15 minutes au nord de Vannes. Et pour le moment, en fait, j'ai un projet de plantation de vignes et un projet qui est en train de se monter au petit à petit. Là, j'ai récolté du coup chez des amis à moi où je leur ai acheté du raisin et j'ai ramené le raisin en Bretagne.
À quel endroit ils étaient eux ?
Alors différents terroirs qui sont totalement différents.
Mais pas en Bretagne.
Non, pas en Bretagne.
D'accord.
Pas en Bretagne.
Mmh.
Sur. Alors il y en a qui sont situés en Touraine, il y en a d'autres qui sont situés dans le sud de la France, en Corbière. Et sur les berges du lac Salagou. Donc voilà, le but aussi, c'est j'ai beaucoup travaillé en Loire et j'ai beaucoup travaillé dans le sud de la France. Donc ça fait un schéma aussi de mon histoire. Hein. C'est raisin. Ouais.
Ouais. Et c'était quoi votre formation justement ? Enfin, vous venez d'où ?
Alors moi, j'ai formation un peu particulière. Je suis un peu autodidacte, donc j'ai un peu tout appris sur le tas. D'abord en restauration, puis en vente de vin, puis voyager dans le monde et faire des saisons. Dans différents domaines.
Mais c'était le vin
périodes.
Quand même.
C'était le vin
votre et passion.
C'était le vin, ma passion et le goût. Le goût, la passion du goût, la passion de la fermentation aussi, parce que je m'étends à plein de fermentations différentes.
Ouais, vous faites de la bière accessoirement.
Je fais du kombucha et du pétillant de sureau. Je projette de faire du ginger beer et de m'amuser tout simplement avec la fermentation, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais oui, le vin est une vraie passion. Et c'est pour ça que je voulais rentrer en Bretagne, mais je voulais pas abandonner le vin. C'était hors de question pour moi.
Donc là, une fois que vous avez cueilli vos raisins un peu partout, vous les assemblez, qu'est-ce que vous faites ?
Alors ça dépend. Ça dépend de comment ils goûtent. En fait, je suis fixé vraiment sur le raisin au fur et à mesure de la maturité du raisin. Et à la fin de la maturité du raisin, c'est là où je vais savoir ce que je vais en faire un petit peu. Et je dis un petit peu parce que ça continue tout le long de la vinification. En fait, je continue de me poser des questions sur comment amener ce raisin vers le goût le plus juste.
Donc vous procédez à la vinification, c'est ça que vous faites ?
Ouais.
Et puis vous faites aussi, vous avez une autre activité encore ?
De boissons fermentées, du coup.
Ouais. Et vous vendez après, quand c'est terminé, quand c'est en bouteille, vous vendez vos produits.
C'est ça.
Donc vous avez combien de produits, notamment en vin, là, qu'est-ce que vous proposez ?
En vin, du coup, j'ai 5 cuvées différentes. 5 cuvées différentes qui proviennent de terroirs différents. Il y en a qui sont en monocépage d'une seule parcelle. Il y en a qui sont en plusieurs cépages, mais d'une même parcelle aussi. Il y en a certains qui sont de deux terroirs totalement différents.
Ah oui, vous osez ça.
Voilà. Ouais, ouais, ouais.
Et on
deux terroirs totalement différents. Je pèse mes mots, c'est de Touraine quand même. Ouais. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes types de terroirs.
Et alors, qu'est-ce que ça donne ?
Des cuvées qui sont totalement différentes. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'amuser autant que je veux. Mmh. J'aime vraiment beaucoup m'amuser dans la vie, en faisant les choses bien. Mmh. J'aime vraiment beaucoup m'amuser. Et du coup, cette diversité de cépages, cette diversité cette possibilité infinie, en fait, m'amène à juste... faire des vins qui sont plus différents les uns que les autres. J'essaye juste un truc, c'est de préserver de la fraîcheur dans les vins. Vraiment préserver de la fraîcheur.
Ça fait tourner les vins ?
Je ne sais pas si je le dirais comme ça, non. Ça fait tourner la tête peut-être au bout d'un moment, mais non, garder de la fraîcheur. Cette espèce de joie de vivre.
Ah, vous voulez garder la fraîcheur. Vous voulez pas éviter la fraîcheur. Vous voulez garder la fraîcheur.
Garder la fraîcheur.
Ok, j'avais pas compris.
Je veux garder la fraîcheur.
Oui.
Et le vin, il soit plein de peps, plein de vie, plein de...
C'est votre critère. Voilà. Et dans ce que vous allez planter, dans ce que vous prévoyez de planter comme vigne, c'est quoi le projet ?
Alors, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que font Roland et Nolwenn, c'est-à-dire de planter plusieurs cépages dans la même parcelle, sans qu'ils m'influencent. Au début, c'était aussi mon projet. Donc, de planter un peu comme on faisait dans l'ancien temps. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, avant qu'il y ait la machine, on n'avait pas besoin d'avoir le même cépage, des fois le même clone même, sur toute une parcelle. On avait plein de cépages différents et les gens savaient greffer en plus. Donc, ils allaient à gauche, à droite et ils prenaient un cépage et ils venaient le greffer dans leur parcelle. Moi, c'est typiquement ce que j'ai envie de faire parce que je trouve que ça prend son sens sur les maladies, sur quand on a une petite exploitation, on a plus de regard sur comment pousse telle vigne et telle vigne. On réfléchit la vigne par individualité et pas par un ensemble de 15 hectares. Donc, oui. Moi, c'est ce que je voudrais. Et du coup, je veux maîtriser la taille de mon exploitation pour vraiment avoir une toute petite exploitation. Et pouvoir avoir un regard sur chaque vigne.
Et vous serez plutôt sur des cépages de Loire quand même comme Nolwenn ou différents, pas forcément.
J'ai pas arrêté mon choix.
Et votre mon terre n'était pas la même aussi.
Mon choix s'arrêtera, je pense, quand je planterai, juste avant de planter. Pour le moment, oui, des cépages de Loire, des cépages que j'aime, des cépages du Nord, mais pourquoi pas aller autre part aussi. Il y a des terroirs, tout dépend du terroir. Si je suis sur du granit, parce que j'ai pas encore mes terres.
Ah
du
oui,
coup,
c'est ça.
Si
oui.
Je suis sur du granit, ça va être différent. Et sur le granit, il peut y avoir. Alors, il n'y a pas l'influence océanique là-bas, mais on peut retrouver un massif granitique dans le Beaujolais. Et peut-être certaines variétés de gamay peuvent être intéressantes. Et je dis variétés de gamay parce qu'il y en a plein.
Oui, oui, bien sûr.
Mais mon choix n'est pas arrêté tant que j'ai pas découvert le terroir.
Bon, on va y revenir peut-être tout à l'heure. On va faire une pause musicale. Nous sommes au Fou en direct du salon Vin Nature et Illustration dans la rue principale. Venez, c'est ouvert. Il y a des vigneronnes, des vignerons, des dessinatrices, des dessinateurs et c'est joyeux.
It goes straight to the dome. It goes
Filthy, c'était Iron Jones, qui est à l'affiche du festival God Save the Queen. C'est pas mal comme nom de festival. Ça sera vendredi prochain. Il y aura d'autres artistes, bien sûr. Le festival continue aussi le samedi. Ça se passe à Pinmar, en Pays Bigoudin. C'est un peu loin, mais nous, nous sommes au Fou, dans une émission spéciale en extramuros, à deux pas de nos studios de Transistor, Radio Évasion, puisque le Fou accueille aujourd'hui et demain le salon Vin Nature et Illustration. Dans la rue principale, il y a des vigneronnes, des vignerons, des dessinatrices, des dessinateurs. Il y a de la radio avec nos studios en extérieur. On vous proposera plusieurs émissions. On redonnera la parole à nos deux invités sur le vin en Bretagne, le thème principal de cette émission, tout à l'heure. Et je vous propose une petite perspective historique à présent avec Guénolé Ridou, qui est historien médiateur au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, où on peut voir l'exposition sur les non-humains. Et on peut même profiter ce week-end aussi des journées européennes d'archéologie. J'ai demandé à Guénolé de nous raconter l'histoire de la vigne et du vin à Landévennec, parce qu'il y en a eu.
Le vin à l'abbaye de Landévennec, c'est une histoire en pointillé, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a quand même quelques-unes qui nous disent qu'il y en a eu, ou qui nous disent même qu'il y a eu une production de vin à l'abbaye de Landévennec au début du Moyen-Âge. En fait, ce qu'on a retrouvé, alors précisément, c'est d'abord des pépins de raisin. C'est dans les sols du site, c'est analysé par des carpologues, qui sont des scientifiques spécialisés, qui identifient, voilà, et qui nous disent qu'il y a du vin, des pépins, non, pas des pépins encore du vin, des pépins de raisin, entre le 7e et le 13e siècle, même le 14e, à peu près en continu, avec des pointes de présence de ça, 7, 8e et 11e. Mais on a plus que ça, parce qu'en fait, les archéologues ont retrouvé, et là c'est vraiment une période spécifiquement, c'est le 7e, 8e siècle, ils ont retrouvé un petit bâtiment qui était accolé à la cuisine et au réfectoire du monastère, un petit bâtiment peut-être en appentis, enfin quelque chose de, voilà, un peu à l'extérieur, et tout le sol de ce bâtiment était recouvert en fait de pépins de raisin écrasés avec de la matière organique, et en fait ça fait penser à du marc de raisin. Et donc là, en fait, ce qu'on a, c'est un pressoir. Très probablement, c'est un pressoir. Donc, si on a un pressoir, là, si on presse du raisin, c'est que probablement, on faisait du vin à Landévennec au 7e, 8e siècle. Et ça, ça paraît effectivement assez probable. Enfin, c'est vraiment des données qui sont voilà. Alors, pour les autres périodes, malheureusement, ce qu'on n'a pas, c'est le pressoir. C'est le pressoir, en fait, qui fait la preuve de la présence du vin. Et en fait, pourquoi on l'a pas? Parce que, du coup, après, l'abbaye grandit. Et comme elle grandit, en fait, tout l'espace qui a été fouillé par les archéologues, parce que tout n'a pas été fouillé à Landévennec, c'est simplement les bâtiments d'habitation. Et ben, comme elle grandit, cet espace-là, il est pris, en gros, par les bâtiments d'habitation. Et donc, probablement, le pressoir, il est repoussé. Et en fait, il est repoussé un peu plus loin. Et donc, à l'extérieur de la zone de fouille. Donc, du coup, pour les périodes plus récentes, on n'a pas cette preuve directe de la fabrication de vin sur le site. Alors après, on a d'autres systèmes de preuves, et notamment, par exemple, on a dans le cartulaire de Landévennec, qui date du XIe siècle, donc quelques siècles plus tard.
Donc
on
c'est
a...
le cartulaire, c'est une sorte de catalogue, enfin de mode d'emploi de ce que doit être une abbaye, c'est ça?
Alors un cartulaire, c'est comme un grand classeur, donc, dans lequel les moines auraient recopié tous leurs actes de vente et d'achat.
D'accord.
En fait, c'est comme c'est leur titre de propriété, mais qu'ils ont recopié dans un livre, donc des chartes qui sont rassemblées, donc ça s'appelle un cartulaire, parce qu'il y a plein de chartes dedans. Et donc, du coup, dans ce cartulaire, on nous dit que les moines ont une vigne qui leur a été donnée et elle est proche de... En fait, elle est à l'hôpital Confroute, de l'autre côté de la rade. Voilà.
Mais leur domaine était grand. Enfin, ça allait jusqu'où, leur domaine?
Ah ouais, alors leur domaine à cette époque-là, il était gigantesque. Ils ont toute la presqu'île de Crozon. Ils ont des domaines, mais presque par endroit, c'est des villages entiers, quoi. Ils ont des possessions dans le pays Bigoudin. Ils ont des possessions dans le Nord Finistère. Ils ont des possessions sur l'île de Bas, près de Nantes, donc le Bas-sur-Mer. Et là, justement, ils ont une autre vigne.
Oui,
avec des dîmes et des recettes qu'ils obtiennent des producteurs locaux. Donc, en fait, on a comme ça. Voilà, ils sont associés à la production du vin carrément directement dans le Finistère, ou alors ils font venir du vin de Bas-sur-Mer. Ça, c'est pour le début du Moyen-Âge. Et puis après, on a moins d'indications, on va dire, à partir du 13-14e siècle. On a encore un petit élément. C'est une marmite qu'on a retrouvée dans les sols du site 14e siècle. Et cette marmite, elle a été analysée, la matière organique contenue dedans, donc les restes alimentaires contenus dedans ont été analysés. Et le scientifique qui a fait ça, Nicolas Garnier, il a identifié la présence de tanins et surtout il avait de raisins. Et surtout d'un raisin noir qui n'était pas arrivé tout à fait à maturité. Donc en fait, en langage normal, ça veut dire que c'était un vin un peu pas, un peu dégueulasse peut-être. Mais en tout cas, probablement un vin d'origine locale au XIVe siècle dans cette marmite, donc un vin pour faire la cuisine quoi, qui aurait été fait localement. Voilà.
C'est ça, parce qu'en fait, il faudrait aussi quand même pour notre auditoire donner une idée de ce que peuvent être les vins du Moyen-Âge. Ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on boit aujourd'hui.
On l'est effectivement. Il y a plusieurs trucs. D'abord, il y a la conservation. Il y a le fait qu'aujourd'hui, les vins, souvent, enfin, pas de moins en moins, mais ça existe encore. Ils sont stabilisés avec des sulfites. Donc, ça permet de les faire circuler sur des très longues distances, dans des conditions compliquées. Tout ça, c'était pas forcément possible au Moyen-Âge. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher, par exemple, quand il n'y a pas encore les grandes routes commerciales à partir du 13e, on va chercher les vins plus locaux. En fait, on a besoin de vins locaux. Et puis, donc, on peut les couper à l'eau, on peut les aromatiser, on peut, différentes façons de les utiliser, quoi.
Parce qu'ils sont très acides. Sinon, sans doute, plus que les nôtres.
Alors celui-ci, ouais, la base du vin, ouais, elle peut être plus acide, plus. En fait, c'est comme du vin rouge des régions du nord. Donc en fait, vous auriez un vin qui est moins tannique, plus léger, mais moins goûtu aussi. Voilà, ça c'est la base, mais surtout en fait, ça, c'est quand c'est utilisé en cuisine, ça va être aromatisé.
Parce que le vin, il sert donc pratiquement, il remplace l'eau. Enfin, on boit pas tellement d'eau parce que c'est dangereux, c'est ça.
C'est ça. Alors on évite la consommation d'eau. Ça, on s'en rend bien compte, par exemple dans les archives qui, encore une fois, sur les abbayes, parce que les abbayes écrivent beaucoup, donc on a beaucoup d'informations là-dessus. Mais... Donc il y a une grosse préoccupation sur l'approvisionnement en alcool. Et on se demande, ouais, du coup, mais pourquoi autant de questions sur l'alcool? Alors ça peut être du vin, mais on nous dit aussi, bah bon, si vous avez plus de vin, vous pouvez utiliser, par exemple, de la bière. Vous pouvez utiliser, et on nous donne les quantités de combien de bière et combien de vin a droit à un moine, par exemple. Ça, c'est pas pour Londevenec, mais pour d'autres abbayes. C'est des informations qu'on a. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, effectivement, dans les mêmes textes, on nous dit, bah, si vraiment il n'y a plus rien, prenez de l'eau, mais faites attention. Prenez l'eau de la source, mais faites attention. Parce que l'eau de la source, effectivement, elle risquait d'être contaminée par les matières organiques animales et par les rejets animaux et humains. Et donc, du coup, effectivement, elle pouvait rendre malade. Donc, une eau légèrement fermentée, c'était moins dangereux.
Et on aurait pu, en termes de boissons fermentées, ne consommer que du cidre en Bretagne? Est-ce que ça aurait été si surprenant? Enfin, est-ce qu'il fallait absolument qu'il y ait de la vigne dans l'affaire?
Non, alors c'est pas du tout obligatoire d'avoir de la vigne. Les moines ont besoin de vigne, les religieux ont besoin de vigne et de vin pour la messe, en fait.
Ah, oui.
Et voilà, et dans la vie de Saint-Guénolé, on nous raconte, alors justement pour nous dire à quel point Saint-Guénolé est quelqu'un d'extraordinaire, donc le fondateur de la ville d'Andévennec, c'est une vie qui a été écrite dans le courant du 9e siècle, et on nous dit que lui, il buvait jamais de vin, évidemment sauf à la messe, il boit du vin, mais que le reste du temps, il buvait une boisson faite à partir d'eau et de pommes fermentées. Donc en fait, on a, c'est pas vraiment du cidre, c'est une espèce de ce qu'on appelle la piquette, c'est-à-dire qu'on va justement prendre de l'eau, on va faire fermenter des choses dedans, et puis ensuite on va le consommer. Donc ça n'est pas forcément... Le vin de sureau, ça ressemble un peu à ça d'ailleurs.
Ah oui, oh, c'est bon le vin de sureau.
Le vin de sureau, c'est bon, ouais. Donc du coup, peut-être c'était bon, je sais pas. En tout cas, c'est une manière de dire que bah, quand on veut s'abstenir, donc quand on veut faire un effort de pauvreté en quelque sorte, on va consommer plutôt ces choses-là, locales, à base d'autre chose que du raisin, et puis par contre c'est plus chic, c'est peut-être plus noble et peut-être un peu plus aussi mauvais genre de boire du vin.
Donc en fait on peut supposer que si quand les moines ont arrêté de produire du vin eux-mêmes, ils ont commencé à en acheter, mais enfin juste pour la messe, quoi.
Alors, et ben pour ce qui est de Londevenec, non. Alors juste pour la messe, je pense que si l'auteur de la vie de Saint-Guénolé insiste autant sur le fait que Saint-Guénolé était pas un alcoolique, c'est que peut-être lui-même avait peur que ses camarades, à l'époque où il écrivait, soient tentés par ce genre de choses. En tout cas, que d'autres moines soient tentés par ça, parce qu'effectivement, les milieux monastiques, c'est des milieux nobles. On recrute parmi l'élite locale a l'habitude de boire du bon vin. Donc probablement à Londevenec, on continue à consommer du vin. Et alors effectivement, à partir du XIIIe siècle, ça, on en a des traces aussi par... cette fois-ci, c'est les poteries qui nous indiquent ça, en fait. On a beaucoup de poteries qui viennent de la région de Saintonge. Et c'est des poteries, c'est des pichets, quoi, en fait. Et donc là, clairement, c'est des manières d'importer... On importe la poterie en même temps qu'on importe le vin. Peut-être qu'on importe le vin dans la poterie. Et donc ça, c'est à partir du XIIIe siècle. Ça correspond tout à fait à ce qu'on connaît pour la Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, on a encore beaucoup de vin qui est produit localement dans la région, un peu moins dans le Finistère qu'en Haute-Bretagne probablement, mais c'est le moment où on a en tout cas un commerce qui commence à s'établir avec la Saintonge, donc c'est le nord, c'est la région au nord de Bordeaux, là, sur la côte de l'Atlantique, et puis surtout avec la Gascogne au sud. Et donc là, comme il y a une grande route commerciale de toute façon entre cette région bordelaise et puis la Grande-Bretagne, et ben on se branche sur ces grands réseaux internationaux commerciaux, et donc on importe de plus en plus de vin. Et donc c'est une période à laquelle on a à la fois encore, normalement au XIIIe siècle, encore du vin local à l'échelle de la région, en tout cas pour Landvenex, pas la preuve, mais pour la région, ouais. Mais aussi, l'élite, elle, fait venir son vin de région où le vin est réputé.
Et on sait quand ça s'est arrêté, la production de vin à l'abbaye ?
Alors la preuve, encore une fois, c'est difficile de savoir exactement quand ça s'arrête, parce que c'est vraiment tout à fait en pointillé. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que au XVIIe siècle, en 1648 exactement, à cette date-là, c'est sûr qu'il n'y a plus de vin, parce que un moine de Landvenec nous écrit que la vigne ne pousse pas à Landvenec. Donc pour lui, il n'y a jamais eu de vin à Landvenec, mais il ne connaît pas toute l'histoire. Mais en tout cas, ça veut dire qu'en 1648, il n'y en a plus. Et par contre, il nous précise que au pied de l'abbaye, sur la grève, donc le port de Landvenec dont on parlait tout à l'heure, là, par contre, c'est très bien, parce qu'à cet endroit-là, on peut s'approvisionner sans aucun problème en vin de Gascogne, justement.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en savoir davantage sur ce vin de Landvenec ?
Les recherches, en fait, on peut dire. Donc, on a des indications pointillées comme ça sur le texte, etc. Mais en fait, il y a encore des données qui peuvent être exploitées. Et en particulier, ce sont les pépins de raisin qui ont été retrouvés sur le site. Parce que c'est assez rare, hein, finalement, de retrouver ce genre de choses. En général, ce qu'on retrouve quand on a de la trace de la vigne, c'est des pollens. Mais les pollens, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Là, on a carrément des pépins, parce que le sol de Landvenec, il conserve très bien les matières organiques. On a des pépins et parfois, on a même de la pulpe de raisin.
Wow.
Et en fait. Et en fait, ce que ça veut dire que probablement on pourrait faire des études génétiques sur ces raisins-là. Et ça, c'est intéressant, c'est des choses qui ont été lancées récemment à l'échelle de l'Europe. Il y a eu des études sur l'origine du vin, ça apporte plein d'informations sur les cépages qui étaient utilisés, voilà, l'époque de la domestication, etc. Et c'est assez important pour les chercheurs, enfin pour les cultivateurs et les vignerons aujourd'hui, parce qu'en faisant ces études, par exemple, on s'est rendu compte que le vin, enfin les cépages qui existaient aujourd'hui sur le territoire national. En fait, souvent, ils étaient très anciens. Vous savez que le vin, ça se reproduit, la vigne, ça se reproduit par bouturage, donc c'est du clonage. Donc, en fait, c'est le même génome. Et par exemple, pour un Sauvignon blanc, il y a un génome qui a été retrouvé qui a 900 ans. On boit un vin, en fait, la vigne qu'on utilise, elle a 900 ans pour faire le vin qu'on boit aujourd'hui. C'est assez risqué de faire ça, parce que si le vin, si la plante n'évolue pas, elle peut pas s'adapter à son environnement au fur et à mesure qu'il change.
C'est ça.
Voilà. Donc, du coup, c'est intéressant, à chaque fois qu'on peut avoir des informations sur des vignes plus anciennes, de connaître un peu cette diversité génétique. Mmh. Et peut-être, ça peut apporter aussi des informations pour les vignerons d'aujourd'hui.
Ouais, pour pouvoir reconstituer, entre guillemets, des vignes adaptées à la Bretagne.
Voilà, avoir des idées de croisement, des choses comme ça. Voilà.
Alors, justement, nous sommes en direct depuis Le Fou au Salon Vin Nature et Illustration qui se tient dans la rue. Et on s'intéresse dans cette émission à la vigne qui revient en Bretagne depuis 2016. Et notre invitée en sait quelque chose puisqu'elle est viticultrice. Elle s'appelle Nolwenn Runigo et son domaine, c'est Domanitis. C'est dans le Morbihan, à Locmiquélic. Nolwenn, donc on parlait tout à l'heure donc de votre parcours, voilà, et donc vous disiez que vous faisiez en fait des expérimentations quelque part, c'est ça, mais vous avez plusieurs parcelles, enfin est-ce que c'est toujours le même sol?
Non, en fait on a deux parcelles, une qui est sur des granites et une qui est sur un sous-sol calcaire avec en fait une ancienne entrée maritime de ce qu'on appelle la petite mer de Gavre chez nous. Voilà, donc on a deux parcelles différentes.
Qu'est-ce que ça veut dire, enfin pour faire du vin, qu'est-ce qu'il faut en fait? Pour faire du bon vin.
Ben, il faut un sol quand même qui puisse permettre à la vigne de s'épanouir pour donner le raisin qu'on a envie de sortir en fait, parce que avoir du raisin dans l'absolu c'est pas très dur, mais avoir du raisin qui nous permette de faire un vin voilà, qui soit intéressant, c'est un autre challenge en fait. Hein.
Oui, c'est pas parce que vous êtes allé chercher les cépages dans les régions viticoles que ça va fonctionner.
Non.
Et alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sol granitique ?
De l'attention. Voilà. Après, les sols granitiques, il n'y en a pas qu'en Bretagne. Hein. Comme disait Freddy tout à l'heure, dans le Beaujolais, je vois, nous, par exemple, le cépage qu'on a choisi d'implanter, qui s'appelle l'Alvarinho, c'est entre autres, enfin, c'est, je ne vais pas dire majoritairement, parce que c'est un cépage galicien, mais c'est aussi entre autres parce que c'est un cépage qui est adapté aux sols granitiques. Voilà. Alors, la petite blague, c'est qu'en fait, on l'a planté sur des calcaires. Donc, on verra ce que ça donnera.
Ah oui,
mais voilà, un cépage, il est adapté à un sous-sol, il est adapté à un sol, il est adapté à un climat, enfin, une pluviométrie, etc. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure qu'en Bretagne, on se cherche tous, en fait, qu'on fait des expérimentations. Moi, je fais une expérimentation à hauteur de ma petite vie professionnelle, parce que j'ai 50 ans, voilà. Donc, je ne vais pas voir ma vigne grandir pendant 70 ans encore. Donc, c'est une expérimentation pour les autres, j'ai envie de dire, pas pour moi. En même temps, c'est vrai qu'on a fait le choix de planter plusieurs cépages sur un même hectare, voilà, d'avoir vraiment une diversité pour voir un petit peu ce qui s'adapte le mieux sur notre terroir, ce qui est le plus fragile. On voit déjà que sur certains cépages, il y a des maladies cryptogamiques qui vont arriver plus rapidement que sur d'autres.
Alors c'est quoi? C'est des champignons surtout
Ah bah c'est du mildiou, tout ouais, simplement. Tout l'oïdium, le botrytis, enfin on en a plusieurs. Hein.
Oui, ouais, mais c'est des champignons dans l'ensemble.
C'est des champignons,
ouais. Ok.
Et on voit que d'autres ont plus de... Alors, plus de peine à se développer, oui et non. Enfin, quelque part, moi, je préfère, voilà, qu'ils soient un petit peu, qu'on force l'enracinement, par exemple, et qu'il y ait moins de vigueur, parce que on peut aussi avoir des difficultés quand on. Enfin, la vigueur, ça, c'est l'ennemi du vigneron aussi.
Pourquoi? Parce que quand on, enfin, quand une vigne est très enracinée, elle est vigoureuse, non?
Pas forcément. La vigueur, ça va venir de ce qui va nourrir la vigne, en fait. Donc plutôt en sol qu'en sous-sol, par exemple.
Ah oui.
Voilà. Et une vigne trop vigoureuse, ça veut dire un risque de maladie cryptogamique plus important. Ça veut dire aussi des vinifications. Surtout dans les vinifications naturelles, on est très attentif à la manière dont on travaille le raisin. Parce qu'en fait, comme on...
Dont on le presse ou...
Non, dont non on le travaille à la vigne. Parce que l'idée, c'est d'avoir dans notre vigne tous les éléments qui vont nous permettre de faire une belle vinification. Notamment un taux d'azote qui soit... important, pas trop, voilà, mais qui permettent que la vinification se fasse bien. Et en fait, qu'est-ce que je disais?
Vous avez besoin d'azote, des autres facteurs sur le travail de la vigne.
Dans notre travail à la vigne, l'idée, c'est toujours la fermentation après, en fait, parce qu'on ne va pas levurer, par exemple, en vinification naturelle, on ne rajoute pas de levure, ce qui permet d'activer les fermentations. Voilà, donc notre raisin, il doit détenir, contenir tout ce qui va importer pour la vinification future. Et en fait, quand on travaille notre vigne, l'idée, la seule idée qu'on ait en tête, c'est la vinification et le vin qu'on va en sortir.
Freddy Le Breton, vous faites pour l'instant que la vinification. C'est pas vous qui travaillez votre vigne, mais comment est-ce que vous êtes sûr qu'elle est travaillée de façon optimale pour ce que vous cherchez, en fait?
Vous voulez dire sur les raisins que je vais chercher?
Oui. Vous le connaissez, enfin c'est quand même les producteurs, vous
parce
le connaissez.
Parce que je connais les producteurs, parce que je vais voir la terre aussi. Parce que parce que je goûte leur vin, parce qu'ils produisent du vin et du coup je goûte leur vin. Parce que je les connais personnellement, parce que je vois la biodiversité qui est présente dans leur vigne, parce que je vois la qualité de leur sol, parce que je vois l'état des vignes en général, comment ils travaillent, comment, rien que dans la taille, comment ils vont venir tailler. Ça demande aussi une minutie. Si tu as la minutie à la taille, souvent tu vas aussi l'avoir sur ton sol, ou du moins ça se voit, un sol vivant ça se remarque.
Donc vous passez beaucoup de temps chez eux, en fait? Combien de temps dans l'année, par exemple, pour savoir tout ça?
Alors, je vais pas passer tout le temps, ça c'est sûr. J'essaye d'aller les voir 2-3 fois à l'année. Mais j'aimerais pouvoir aller plus longtemps, mais comme je vais chercher aussi des raisins dans le sud, c'est un peu plus compliqué là, d'aller les voir. Je vais pas aller les voir. Par contre, c'est des gens, je connais, je sais comment ils travaillent. Et leur travail me va, ouais. Et après, on échange au téléphone, on échange.
Et pour ce que vous projetez de planter, donc vous préféreriez quoi? Plutôt du granitique, du calcaire, et pourquoi?
Moi, je veux, avant de me fixer là-dessus, je fais pas de choix de sous-sol. Premièrement, c'est certes c'est un choix important, mais ce qui va m'intéresser le plus, c'est comment est l'environnement autour de la vigne.
Et qu'est-ce qu'il vous faut?
Ce qui m'intéresse le plus, de la biodiversité, un moyen de développer la biodiversité sur une parcelle, un voisinage qui soit pas avec des pesticides, un boisement pas loin. Voilà, tout ce que je veux, moi je veux faire de la polyculture. Donc je veux faire de la polyculture.
Donc vous feriez pas que de la viticulture.
Ouais, il faut savoir que si je plante aujourd'hui, les vrais résultats du terroir, je les aurai dans 15 ans.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il
faut. Aurai dans 15
ans. C'est l'idée qu'il faut donner aussi à notre auditoire.
Parce que dire qu'on a vraiment une influence sur la vigne au bout de 4-5 ans, C'est un peu compliqué. La vigne prend du temps à s'enraciner, à aller vraiment chercher dans le terroir. Donc avant d'aller chercher dans le terroir, là je commence à m'implanter, avant d'aller chercher dans le terroir, je vais travailler dans un endroit où j'ai envie de travailler, où je me sens bien, où il y a une biodiversité. D'autres achats peuvent se faire par la suite. Si je vois un sous-sol qui est magnifique, pourquoi pas y aller. Mais là, j'ai juste envie d'un endroit où je puisse faire de la polyculture et développer la biodiversité à un endroit. C'est aussi pour ça que je fais de la vigne, pour pouvoir développer la biodiversité.
Nolwenn Runigo, vous, comment vous faites pour développer la biodiversité? Enfin, à Loc Mikelic, vous parliez de vos voisins qui ne font pas du tout comme vous. Quel est votre environnement?
Moi, vous voulez dire,
ils ne font pas de viticulture, quoi. Donc,
Oui, forcément. Ouais.
Donc, est-ce que c'est quand même un voisinage accueillant pour vous?
Forcément, on est en Bretagne, donc du conventionnel, il y en a partout autour. Et moi, j'ai un voisin qui travaille en conventionnel. J'entendais ce que disait Freddy, c'est difficile de trouver une parcelle préservée. De toute façon, la préservation, c'est pas que le voisinage. Hein. La pollution, elle est un peu partout, aujourd'hui. Après, moi, j'ai planté des haies. Toute ma parcelle est entourée de talus et de haies, justement. Après, je travaille en bonne entente et on se respecte avec mon voisin agriculteur. J'essaye de favoriser la diversité, ne serait-ce que par le fait d'implanter des cépages différenciés, par le choix aussi d'une sélection massale ou de clones, c'est-à-dire que quand on fait de la sélection massale, c'est-à-dire
veut dire quoi ?
En fait, cloner, c'est prendre la même génétique sur un plan, voilà, et la reproduire sur plusieurs plans. Faire de la sélection massale, c'est aller choisir une vigne qu'on estime intéressante, la greffer directement. Donc, on va avoir une génétique différente. Ben, ça, c'est de la biodiversité déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la vigne. Après, la biodiversité, moi, je l'ai. Je fais des essais. Alors, on verra ce que ça donnera, mais de planter, par exemple, des plantes aromatiques au pied de mes vignes, donc de la marjolaine, entre autres, ou des choses comme ça. Je fais aussi des essais d'agroforesterie, même si de l'agroforesterie, moi, j'en ai partout autour, parce que tout est boisé autour, mais de mettre des cassissiers, des pêchers, sur le bout de mes rangs pour l'instant, mais sur une des parcelles à Carmignac, dans le rang aussi. C'est tout ça, en fait. Et l'idée aussi, si on est vigneron naturel, c'est qu'on n'a pas non plus envie de surtraiter la vigne. Et cette biodiversité, elle est intéressante parce qu'elle va permettre à la plante de se défendre contre toutes les maladies. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que, par exemple, si on a plusieurs cépages sur une parcelle, il y en a un qui va nous alerter sur l'arrivée du mildiou ou de l'oïdium, par exemple, puisqu'il va l'attraper plus précocement. Donc on va avoir un autre regard sur les cépages qui sont autour.
Bon, pour terminer l'émission, j'aimerais juste qu'on évoque les consommatrices et consommateurs, ceux que vous croisez en tout cas, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils réagissent à ce que vous proposez. Alors vous, Freddy, en vinification pour l'instant, puisque vous n'êtes pas encore viticulteur, et puis vous, Nolwenn, Freddy.
Alors moi, en fait, c'est tout récent. Tout à l'heure, je blaguais, mais en fait, c'était pas vraiment une blague.
Ouais,
c'est 2023 et je disais, je pense que vous êtes la 100e personne à déguster mes vins. Et je pense que c'est vrai. Donc le retour, en fait, pour le moment, ce serait faux de dire que j'en ai un. Enfin, j'ai pas vraiment de retour. Je vois des gens qui sont intéressés, etc. Mais j'ai pas assez de recul.
Une curiosité, en tout cas.
Il y a une curiosité. Il y a aussi une... Je pense qu'il y a aussi une réticence, mais moi c'est beaucoup trop récent pour me projeter, pour avoir une réponse vraie. Et j'ai pas envie de dire quelque chose de faux. Ouais. Donc je laisse la parole.
Et vous, Nolwenn, alors?
Moi, ce que je vois, parce que en fait, j'ai sorti mes premiers raisins qu'en 2023, mais je vends du vin localement, parce que je vends beaucoup en direct. C'est que en effet il y a une véritable attente, émulsion par rapport au vin breton, on en parle beaucoup, là où je rejoins Freddy, c'est qu'un petit peu de recul, une vigne elle va pas donner quelque chose de l'ordre du terroir tout de suite, donc on a des plantes qui sont très jeunes, mais il y a aussi le fait que la Bretagne c'est pas une région viticole, donc les gens sont très suspicieux et attendent avec un peu d'inquiétude, qu'est-ce que ça va être un vin breton, quoi.
Ouais,
grosso modo,
vous faites de la picrate
oui, peut-être.
Oui, mais on pourrait se dire qu'ils sont aussi un peu plus néophytes, puisqu'il n'y a pas de vin.
On a quand même une culture du vin en France. Sait le vin, on sait mieux que n'importe qui le vin. Donc les gens, ils ont une idée du vin, ils ont beaucoup une idée du vin. Alors le vin naturel, en plus, c'est particulier. Ils ont une idée du vin levuré, soufré. Alors, parler du vin, grosso modo, je vais dire du Médoc, par exemple, de passer du Médoc levuré, même s'ils ne le font pas tous, à du vin naturel en Bretagne, c'est un fossé, c'est un gouffre.
Il y aura encore beaucoup d'éducation à faire,
C'est génial, en fait, parce que ça permet de nous interpeller, de nous remettre en cause. Moi, je sais que j'aime ça dans la vente directe, en fait, la rencontre et la discussion.
Et ben, on veut vous remercier tous les deux, Nolwenn Runigaud de Domanities et Freddy Le Breton de Bervy. On a parlé donc de culture de la vigne, de vinification. Cette émission se termine sobrement. Merci de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir la réécouter en intégralité sur le site internet de la radio, tout comme les autres émissions réalisées par Transistor Radio Évasion depuis ce salon Vin, Nature et Illustration. À 19h, il y aura d'autres exposants, je crois, qui seront interviewés par Jean-Louis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, bah Jean-Louis, dont le micro n'est pas ouvert.
Voilà, le micro est ouvert. Ouais. Oui, c'est ça, on va voyager avec un domaine portugais et un domaine géorgien. Voilà, une petite invitation au voyage autour du vin.
Eh bien, venez au salon Vin Nature Illustration du Fou, c'est sympa, c'est gratuit et il ne pleut pas. Merci Fred.